Donc aujourd'hui, nous allons aller dans la lettre de Jacques, chapitre 1, et on va continuer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les versets 13 à 16. Donc c'est le passage qui fait suite à ce que nous avons vu la semaine dernière, si vous étiez avec nous. Et voilà, donc Jacques, chapitre 1, et nous allons lire les versets 13 à 16. Si vous avez votre Bible ouverte, je donne lecture. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Et voilà notre passage. Je l'ai intitulé « Épreuve et tentation ». On aurait pu l'intituler aussi « Anatomie du péché ». Il y a beaucoup de choses dans ce passage et ce n'est pas nécessairement une des lectures les plus joyeuses qu'on puisse faire. Mais la Bible est vraiment elle est vraiment divine dans le sens qu'elle ne cache rien. Et s'il y a quelque chose qui est moins plaisant, mais qu'il faut le dire, il est dit. Donc on revient à notre lettre de Jacques. On se rappelle, il écrit à des chrétiens pour qui les épreuves semblent des montagnes maintenant. C'était des épreuves réelles, mais elles sont devenues des montagnes pour leur perspective. Et en raison de cela, cette situation menace de diluer la vision de la réalité de leur communion avec Dieu. Dieu devient quelque chose qui est moins présent. Il est un peu comme dans le brouillard. Et Jacques cherche donc à aider ses frères et il le fait en remettant Dieu et le dessein de grâce de Dieu au centre de la perspective de la vie. En fait, c'est tout ce que Jacques fait là. Et si on regarde bien, tout le Nouveau Testament ne fait que cela. Qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce que Jacques présente. Comment recevoir ce qui me manque et qui vient de Dieu? Comment regarder les circonstances de ma vie, le cadre dans lequel Dieu m'a placé? Voilà quelques-unes des questions que Jacques a abordées et continue d'aborder. Et sa lettre renferme un grand intérêt immédiat, car en s'appuyant sur une conception solide de la vérité, Jacques ne fait pas l'impasse sur la vérité, non. Mais sa lettre, elle est par ailleurs très pratique et concrète, concrète au plus haut point. Et là, on voit vraiment le pasteur, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas tellement concerné à pomper de la connaissance stérile dans les cerveaux de ses membres, des membres de l'Église où il est placé, mais quelqu'un qui veut que cette vie, leur vie, soit transformée et qu'elle ait un impact dans la vie pour la vérité. Et donc la vérité est importante, mais on finit avec la vérité vécue. Soyez mes témoins, nous avons vu tout à l'heure dans Acte 1. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons vu comment l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, c'est le même mot, est béni. C'est celui qui connaît le bonheur. Car Dieu ne s'arrête pas à l'épreuve, mais il donne la couronne de vie à ses élus, c'est-à-dire à ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime et ceux qu'il aime, lui. Et nous avons vu depuis le début comment Jacques est un homme de liaison. Il part d'un mot, et puis à partir de ce mot, il va explorer tout un autre aspect de la vérité au sujet de la vie du croyant dans ce monde. Et j'avais pris l'illustration d'un maître de chantier. Alors, j'ai essayé de m'en procurer un et puis je ne suis pas arrivé parce qu'il semble que ce soit des choses, des dinosaures, ces choses-là. Maintenant, on n'a plus que ces maîtres qui se déroulent. Alors, dans le temps, c'était un maître qui était fait de plusieurs segments de bois qui étaient liés par des rivets. Et puis on dépliait le maître. Et alors, la lettre de Jacques est un peu comme cela. Au début, il parle de « réjouissez-vous ». Et puis alors, à partir de « réjouir », il faut faire une joie complète des épreuves. Et il continue depuis le début, il suit le thème des épreuves, que regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Et la raison pour laquelle il a commencé à rédiger sa lettre et qu'il va envoyer sa lettre, c'est parce qu'il a pris conscience que ses frères, ses sœurs traversent des moments éprouvants, des épreuves. Donc, depuis le début, il suit ce thème des épreuves. Il écrit à un peuple éprouvé. Et même si, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit une vie relativement facile, eh bien, dans un monde qui est un monde hostile, un monde matériel, charnel, eh bien, rien que la vie dans ce monde, c'est déjà une épreuve. Et quand on sort d'une semaine dans ce monde, on a besoin de recevoir le baume de Galaad, le baume de l'Écriture, parce qu'on a subi des tas de blessures. Donc Jacques écrit à un peuple qui est éprouvé. Et cela nous montre donc que le peuple de Dieu est un peuple éprouvé. On ne le voit pas toujours de manière aiguë ou sensible, mais c'est une réalité. Et en fait, ce monde qui passe, pour le croyant, pour le vrai croyant, il est, comme on dirait aujourd'hui avec un mot très moderne, alien. Les deux ne peuvent pas vraiment se mélanger. Et au verset 12, Jacques a montré le bonheur de celui qui endure et traverse l'épreuve et ses effets, les effets de l'épreuve, avec patience. Cela nous fait quelque chose, cela fait quelque chose aux croyants. Et on a tiré de Hébreux 12 le fait que les épreuves, les châtiments, il est dit dans Hébreux 12, ce que Dieu met sur notre voie et qui nous exerce, c'est en fait quelque chose qui a la même racine dans l'original que le mot gymnase. Et donc, c'est pour être exercé. Et donc, celui qui traverse cela avec patience, il apprend, il reçoit le fruit paisible de la justice et il est béni, il est heureux. Et Jacques trouve ici le rivet ou l'articulation qui lui permet de déplier une longueur de plus dans son maître de chantier, l'épreuve et ses effets, ainsi que la réaction de l'enfant de Dieu. Et il part là d'une réaction erronée pour nous donner une anatomie du péché et pour enjoindre à ses frères de ne pas faire fausse route. En fait, voilà ce que nous voyons ce matin. Une réaction erronée et puis une explication de ce qu'est le péché, une anatomie du péché, si on peut voir. Et donc, en premier point, regardons l'épreuve et la tentation. Jacques entend, ou il voit peut-être, une réaction de la part de certains dans l'Église face aux difficultés qu'ils rencontrent. Comment est-ce que cela s'exprime? Eh bien, tout simplement, ils disent « c'est Dieu qui me tente ». Et déjà, on voit qu'il y a un effet paralysant là. Et en bon pasteur, Jacques voit qu'une telle réaction va tordre la vision que le chrétien a de Dieu et que cette réaction risque fort de l'infecter avec d'une part l'amertume et d'autre part le paralyser dans un fatalisme destructeur. Si Dieu m'afflige comme cela, je n'y peux rien. Et on est réduit à endurer la chose. Une telle pensée a plus à voir avec un genre de stoïcisme qu'avec la foi biblique. En effet, c'est l'esprit du monde qui l'imprègne et qui l'infecte. C'est Dieu qui me tente. Vous aurez remarqué, tout au moins dans nos versions, comment Jacques alterne entre l'usage des mots épreuve et tentation. Il y a un moment, ça va être épreuve, un moment, ça va être tentation. En fait, dans l'original, c'est le même mot ou la même famille de mots, la même racine. Alors, pourquoi, la question se pose, pourquoi les traducteurs utilisent-ils deux mots pour en traduire un seul ? Cela arrive plusieurs fois dans la Bible et assez souvent avec bonheur. Et c'est une question légitime. En fait, l'épreuve est le fait de la vie ici-bas. Comme j'ai dit, la vie ici-bas, c'est une épreuve pour le croyant. C'est une vie dans un monde qui est défiguré et tout ne se déroule pas à la perfection. Combien de fois on fait quelque chose, on s'attend à ce que ce soit parfait et puis on est déçu. Si vous n'avez pas encore appris cela, eh bien, dépêchez-vous parce que cela vous évitera beaucoup de découragement. Non, la vie ici-bas est une épreuve. Il y a des choses qui surviennent dans le monde et dans la vie qui ne sont pas ce qu'ils devraient être, ce qu'elles devraient être. On peut les regarder comme des défis, car ça exige toute notre attention, toute notre ingéniosité, comment est-ce qu'on va surmonter la chose. Parfois, on les voit comme des épreuves, car elles détruisent nos projets et ou elles provoquent toutes sortes de douleurs. Et là, certainement, il y a des tas d'exemples qui vous viennent à la tête. La chose est si universelle que franchement, il n'y a pas besoin d'élaborer beaucoup plus là-dessus, les épreuves. Alors pourquoi parler aussi de tentation? Pourquoi ne pas traduire chaque fois ce mot par épreuve? Pourquoi ne pas simplement employer ce mot? Eh bien, tout simplement parce que l'épreuve, quelle qu'elle soit, survient et atteint des êtres humains qui, eux-mêmes, ne sont pas ce qu'ils devraient être. Le péché réside au fond du cœur et il tord la vie de l'homme. En conséquence, l'épreuve produit sur le cœur, malade de péché, des impulsions qui excitent des effets contraires à ce que devrait être la réaction d'une créature de Dieu, même devant l'épreuve. Donc, l'épreuve, en touchant un homme pécheur, apporte un élément de tentation. Elle a tendance à l'entraîner là où il ne faut pas. Et voilà pourquoi, dans nos traductions, nous avons un mot qui est traduit à la fois, parfois par épreuve, parfois par tentation. Pas toujours là où il faut, mais quand même, il y a un bon travail qui est fait. Voilà, l'épreuve tente l'homme, touché par le péché, bien sûr, et elle a tendance à l'entraîner là où il ne faut pas. Nous verrons ça plus en détail, un peu plus loin. Mais Jacques, ici, aborde une réaction en particulier et il souligne ainsi deux aspects de la nature humaine qui est touchée par le péché. C'est Dieu qui me tente. Et Jacques dit, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Donc, notre deuxième point pour avancer, on a vu épreuve et tentation. J'espère que c'est un peu plus clair pour nous maintenant. Mais maintenant, voyons démission et antagonisme. Alors, j'ai eu un peu de mal avec ce sous-titre-là, mais vous allez voir où on va. C'est Dieu qui me tente. Voilà ce qu'on entend dire. Alors, il est très probable que la plupart d'entre vous, quand nous avons lu ce passage, vous vous êtes dit « Je n'ai jamais dit cela ». Mais Jacques est très perspicace. Il va au-delà des mots. Et il voit qu'une tendance fondamentale, une des tendances fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire de vous, de moi, est de chercher à esquiver la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est, point de suspension, quelqu'un d'autre. Et cela commence tôt, n'est-ce pas? Qui apprend au petit enfant à passer la responsabilité de ses erreurs ou de ses manquements sur quelqu'un d'autre? Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir des enfants ou d'avoir des petits-enfants, alors c'est encore plus flagrant là. Mais non, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est un tel. Et bien entendu, ça va dans l'autre sens. Et cela commence donc très tôt dans la vie d'un homme. C'est naturel pour un homme, pour un être humain touché par le péché. Mais cela commence tôt aussi dans l'histoire de notre monde. À peine le premier acte de rébellion consommé que l'homme place la faute sur les épaules de sa femme, alors qu'il est le chef. Et puis, en filigrane, il blâme Dieu pour cela. La femme que tu as placée à côté de moi m'a fait manger du fruit. Et puis, on voit la femme qui fait la même chose, elle place sur le serpent. Le serpent n'avait personne à qui passer le blâme, voyez. Et cela continue, mes amis, jusqu'à présent. Passer la faute aux autres ou la placer sur les circonstances, sur les événements, sur toutes sortes de choses là. Et Jacques voit qu'une telle attitude interdit à l'homme d'être vraiment homme. En fait, cela le transforme en victime, le déshumanise. Et ultimement, en fait, la faute est placée sur les épaules de Dieu. Car, plus encore, cette attitude de passer le blâme inocule l'homme contre le sentiment de son péché et donc lui bloque la voie vers la paix que Dieu fournit en Jésus-Christ. S'il ne ressent pas son péché, parce que, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur, eh bien, il ne va pas chercher un sauveur. Et pourtant, dans ce sauveur est la vraie paix dont il a tant besoin. Même chez le croyant, mes amis, cela l'empêche de goûter pleinement de la grâce de Dieu. Et combien de fois cela nous prend? Nous sommes suffisamment humains pour que cette chose-là existe encore en nous. Et Jacques le voit, et c'est pour cela qu'il aborde la chose de façon tellement flagrante. Hein. C'est Dieu qui me tente. Je n'ai jamais dit cela. Mais finalement, quand on analyse la chose, si on l'a dit. Et tout effort pour placer le blâme autre part que sur moi-même, que de le reconnaître comme mien, est en fin de compte une manière de dire que la faute revient à Dieu. Et cela montre un autre aspect du cœur de l'homme. Quel est cet aspect? C'est en fait la haine et l'antagonisme qui, de manière innée, reposent au fond du cœur. L'antagonisme et la haine de Dieu. Ce n'est pas que l'homme vit de manière autonome, c'est impossible. En réalité, l'homme n'est qu'une créature et en tant que tel, il n'occupe pas la première place. Cela nous semble évident et pourtant, nous vivons par nature comme si c'était le cas. Dieu a des exigences légitimes et c'est parce qu'il est créateur. Et le péché y répond avec haine. Qui est-il? Pour qui se prend-il pour me demander ça? Même quand la forme de cet antagonisme ou de cette haine est dissimulée. C'est pourquoi Jacques démasque cette attitude et dont il y a encore des vestiges chez le croyant, trop souvent, n'est-ce pas? L'homme se croit le maître de la création, le maître de sa vie, celui qui décide, et chaque fois que Dieu présente ses exigences légitimes, cela met en place ou cela met en mouvement une certaine rébellion, un certain antagonisme. Et Jacques démasque cette attitude. Comment le fait-il? Eh bien, tout simplement en montrant qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est ce qu'il a fait depuis le début. Il ramène à Dieu. Dieu est au centre. Et là, il montre qui est Dieu? Dieu est autre, il est pur, il est parfait. En un mot, il est Dieu. Et donc Jacques dit, ne dites pas cela. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Sa nature le rend imperméable en fait au mal. Aujourd'hui, vous voyez, on utilise les mots un peu comme... sans réfléchir vraiment au poids et à la force des mots. Et c'est intéressant, c'est quasi universel. Or, si on utilise le mot « Dieu », cela veut dire quelque chose et pas d'autre chose. C'est pour ça que quand on entend les gens parler de leur « Dieu » pluriel, on est obligé de mettre un petit « D » parce que ces divinités, qui ne sont pas divines d'ailleurs, ne peuvent pas être Dieu. Parce qu'elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas pures. Or, Dieu est pur et parfait. Et il ne peut pas être tenté par le mal. La chose n'a aucune attraction pour lui. Alors, par exemple, je suis sûr que beaucoup parmi vous aiment le chocolat. Il y en a même qui sont prêts à vendre pas mal de choses pour le chocolat. Et je parle même à mes amis d'Afrique, parce qu'une fois, je suis allé avec un très cher frère dans un endroit où il y avait... cette pâte à tartiner très connue au chocolat et à la noisette, et j'ai vu que c'était quelque chose d'assez universel. Eh bien, pour une raison ou pour une autre, la chose n'a pas d'attraction pour moi. Vous allez me dire que je bluffe, mais non, c'est réel. Si vous finissez la tablette devant moi, ça ne va pas me rendre vraiment triste. Loin de là. Eh bien, ça c'est une illustration, n'est-ce pas? Illustration très pâle, et oubliez le fait que je me suis mis en illustration, mais le péché pour Dieu n'a aucune attraction. Alors que, pour beaucoup de gens, il y a cette attirance, n'est-ce pas? On va en parler dans un moment. Mais pour Dieu, ça n'est pas possible, parce qu'il est Dieu. Et s'il y avait une attirance pour le mal, s'il y avait quelque chose que le mal pouvait avoir quelque chose qui le touche, eh bien, tout simplement, il ne serait pas Dieu. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Un Dieu qui n'est pas pur, qui n'est pas parfait, qui n'est pas imperméable au mal, mes amis, n'est pas Dieu. Et donc, on ne peut pas dire, c'est Dieu qui me tente. Parce que non seulement il n'est jamais tenté par le mal, mais il ne peut pas tenter quelqu'un avec le mal. Donc que personne étant tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». C'est tout simplement impossible. Impossible. Donc on a vu ici antagonisme et démission, ces deux traits du caractère de l'homme dans le péché qui nous habitent tous et contre lesquels la Bible nous aide à lutter. Maintenant, avançons et voyons en troisième point l'anatomie du péché. On va passer du temps à examiner ce qu'est le péché. Alors, ce n'est pas très très beau, mais c'est très utile. C'est très utile. Parce que Jacques dit, ne dites pas, c'est Dieu qui me tente, lorsque vous êtes tenté. Lorsque vous êtes éprouvé et que cette épreuve a des accroches, n'est-ce pas? Ne dites pas, c'est Dieu qui... Mais alors, où est la réponse? Qui tente? Et l'être humain parcourt le monde entier pour trouver quelqu'un ou quelque chose qui puisse endosser la responsabilité d'accéder à la tentation. Le catalogue des excuses est virtuellement infini, n'est-ce pas? On arrive à trouver toutes sortes d'excuses pour que ce ne soit pas un péché. La preuve est qu'on habille le péché de jolis mots. Mais c'est péché. Mais finalement, il n'y a personne sur qui on puisse poser cette responsabilité. Le diable lui-même, il est passé maître dans l'art de tenter. Mais lui-même, Satan lui-même, mes amis, ne peut pas forcer quiconque à pécher. Il ne peut pas. Il peut attirer, mais il ne peut pas forcer à pécher. Dans l'épreuve, Dieu vise à affermir et à équiper ses enfants. Pour sa part, l'ennemi des âmes cherche à faire trébucher. Et ainsi, cela devient une tentation. L'épreuve se transforme en tentation. Mais il ne peut pas forcer quiconque à la chute. Il y a une différence entre trébucher et chuter. D'où est-ce que cela vient alors? Et Jacques est catégorique. Par sa propre convoitise. Regardez, car Dieu n'est pas tenté par le mal, verset 13, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé, par sa propre convoitise. C'est catégorique, n'est-ce pas? La source du péché est en moi. La source du péché est en vous. Et ça s'arrête là, en ce qui nous concerne chacun. La chute dans l'état de péché a produit une déformation profonde, une déformation fondamentale et une déformation essentielle chez l'être humain. C'est beaucoup plus que d'avoir simplement enfreint quelques règles de bienséance, genre de péché quelconque. Non, tout le centre de référence de l'homme en tant que créature de Dieu, a changé. Et c'est ce que Jacques, ici, appelle la convoitise. La convoitise. Alors, veillons à ne pas étriquer le sens de ce mot, à le rendre plus étroit qu'il n'est. Tout, désormais, tourne autour de moi, de mon ressenti, de mes idées, de mes convictions, etc., de mon bien-être, et ainsi de suite. Auparavant, c'était la parole de Dieu et l'union avec lui. N'est-ce pas? Ça, c'est le séjour dans le jardin d'Éden. Maintenant, c'est la tyrannie de ce que je veux, de ce que je veux être, et ainsi de ce que je veux qu'on voit que je suis. Et donc, il est impératif, de reconnaître où se situe la responsabilité, mes amis. Elle est à ma propre porte, dans mon cœur, c'est ma propre convoitise, c'est-à-dire le fait que je suis centré sur moi-même. Et bien sûr, le sens étroit qu'on donne à convoitise aujourd'hui est simplement une manifestation de cette chose beaucoup plus fondamentale. C'est la chose que nous voyons ici. La responsabilité se situe en moi, en moi. Lorsque je suis tenté, que je ne dise pas c'est Dieu qui me tente, que je ne dise pas c'est la femme que tu as placée auprès de moi, et ainsi de suite, à la suite de ça. Non, c'est moi, c'est moi. En effet, si cela n'est pas le cas, il n'y a pas de solution. Quand l'épreuve survient et que l'élément de tentation l'accompagne, le moi tordu de l'homme s'en empare et fait tout tourner autour de soi. C'est exactement cela. Alors Jacques utilise des images très frappantes. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. La convoitise qui est dans mon cœur, c'est-à-dire ce penchant égocentrique, centré sur moi-même, il est attiré par cette tentation. Nous avons ici, en fait, le langage de pêche. Alors, je ne m'y connais pas trop dans la pêche moi-même. Alors, peut-être qu'il faudra que je demande à mon ami Nathan de m'expliquer. Mais dans la pêche, vous avez un appât qui est mis là et qui produit, il est fait de telle manière à produire des éléments puissants dans le poisson. Si bien que le poisson qui est à l'abri, qui est en sécurité, il est attiré. C'est ce mot qu'on a là, vous voyez, attiré, qui est traduit par attiré. Il est attiré à sortir de son refuge pour se saisir de ce qui a brillé devant lui ou que sais-je encore. Et c'est l'appât qui produit cet élan puissant qui est dans le cœur. Et bien entendu, l'appât ne peut pas produire ça chez Dieu, l'appât de la tentation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cet élan vis-à-vis de cette chose. Non, mais le cœur qui est centré sur soi, ou dans le cas du croyant, qui a mis en oubli Dieu et sa parole, ce cœur, dis-je, il éprouve des élans qui l'attirent avec une grande force. Vous voyez comment la convoitise œuvre là ? Comment ce fait d'avoir perdu ce centre de référence fait que la tentation, la chose qui vient, renferme une grande force. Et comme le cœur n'a d'autre référence que lui-même, il n'a plus de frein avant d'obtenir ce qui l'attire. Et il passe à l'action, il est, comme il nous est dit ici, amorcé. Il est amorcé, il ouvre la bouche, il prend l'appât et bien entendu, il y a l'hameçon. Il y a l'hameçon. Donc, ici, regardez, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire ses élans au-dedans de nous. Et vous pouvez passer un moment, vous arrêtez, vous réfléchissez, et vous voyez, en fait, que c'est ce qui se passe. Et quand vous vous réveillez, vous dites, mais j'ai péché, voilà, ça s'est passé. Et puis, Jacques passe dans un autre langage, un autre registre. Il a parlé le langage de la pêche. Maintenant, il parle du langage de l'engendrement, de la conception, de la mise au monde. Quand la convoitise, regardez, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'il y a eu cette union, elle enfante le péché. Quand la convoitise a conçu. Vous voyez comment l'Écriture peut parler d'adultère spirituel. C'est quelque chose qui est vraiment très profond, très intime. Cette convoitise s'unit, cette convoitise qui est au fond de moi, elle s'unit intimement avec ce qui l'attire et ce qui l'amorce, et cela l'amorce, et donc cela produit quelque chose, elle engendre. Elle engendre. Et le langage de Jacques montre comment l'engrenage fonctionne. La femme qui a conçu, elle ne peut pas faire autrement que de donner naissance. Alors, bien sûr, il y a dans ce monde déchu, il y a des tas de choses qui peuvent interrompre la chose, mais ce processus doit s'accomplir. doit s'accomplir dans le cours normal des choses. Et ici, la convoitise a conçu et elle est dans l'engrenage jusqu'à produire quelque chose. Et ici, la convoitise, elle enfante. Elle a conçu et elle enfante. Et qu'est-ce qu'elle enfante? C'est le péché. C'est quelque chose qui est illégitime, qui est contre nature, qui est contre Dieu. Une créature faite par Dieu ne doit pas produire cela. C'est ce qui rend la chose péché. C'est ce qui rend la chose une faute. Et on voit ainsi comment un pécheur, un cœur qui est par nature opposé à Dieu, produit ce qui s'oppose à Dieu. Petite parenthèse, beaucoup aujourd'hui de nos semblables pensent au péché en termes d'actes. Mais cela va beaucoup plus loin. Cela va beaucoup plus loin. C'est pour cela que Jésus dit, mais toi qui n'as jamais commis physiquement l'adultère, simplement le regard te le fait faire. Vous voyez? Et c'est cela. Ici, la convoitise produit ce qui s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur est un cœur qui est opposé à Dieu. Mais ce péché n'en reste pas là. Ce péché n'en reste pas là. Alors, nos versions, enfin, tout au moins celles que j'utilise là, dit « le péché étant consommé, il se passe quelque chose ». Alors, en fait, cela limite trop l'idée à l'acte de péché. Vous voyez, le péché étant consommé, c'est-à-dire quand j'ai produit le péché. Mais Jacques ne dit pas cela. Il est beaucoup plus général dans son optique, dans sa perspective. En fait, il est en train de dire quand le péché est parvenu à maturité. C'est-à-dire maintenant, le péché va produire ce qui est à son image. Lorsqu'il arrive à la plénitude de son influence, ce péché-là produit quelque chose. Ça n'est pas un petit écart, non. C'est péché. C'est quelque chose qui a puissance en soi et cette puissance, c'est de produire quelque chose. Et nous restons ici dans le registre de l'engendrement. Et voilà, le péché a été engendré, conçu, engendré. Et voilà que maintenant, il produit lui-même, il va engendrer. Et voilà ce qui vient à la vie. Qu'est-ce qui vient à la vie? Regardez, c'est la mort. Le péché étant parvenu à maturité, il est homme fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il produit? En quelque sorte, il engendre la mort. Il met à la vie, il amène à la vie la mort. Quelle tragédie! Quelle tragédie! C'est pour cela que Jacques est si fort dans ses propos. Parce que dès que cela se produit, il y a bien entendu le fait que le croyant lui-même est écarté du droit chemin. Il produit la mort. Alors bien sûr, le péché plonge dans la mort. Le péché envoie en enfer, si on peut dire. Les hommes sont dans la mort de leur état de péché, depuis la naissance et même avant la naissance, du fait d'être enfant d'homme pécheur, fait qu'on est déjà dans la mort, on est mort. Et cette mort s'intensifie, elle cautérise même l'être humain à mesure que l'être humain s'adonne au penchant de ce cœur déchu, qui est plongé dans la mort. Mais Jacques, ici, écrit à des croyants. Ces gens sont éprouvés et ils sont en danger de devenir les jouets de leurs circonstances plutôt que les enfants bien-aimés du Seigneur. Ils sont menacés de ne pas vivre ce qu'ils sont. Pourtant, la Bible est claire. Le croyant ne périra jamais. Alors, qu'est-ce que Jacques est en train de dire quand il dit que le péché produit la mort? Est-ce que finalement le croyant va déchoir de la grâce et puis s'il se laisse aller à ses convoitises, alors il va connaître la mort, cette mort qui le séparera de Dieu? Non. Chez le croyant qui ploie dans l'épreuve et qui laisse la tentation attirer, amorcer ses convoitises, le péché qui est ainsi engendré engourdit le feu de son union avec Dieu. Et en fait, il n'est pas mort grâce à Dieu. Mais il semble mort. Il semble mort. C'est un peu comme celui qu'on a mis dans le coma artificiel, de façon à pouvoir le protéger pendant un moment. Là, pour le moment, il ne peut pas fonctionner comme véritable croyant. Pourquoi? Parce que sa perspective sur le péché fait que, en fait, le péché engourdi produit une certaine mort en lui. Et voilà ce que Jacques est en train de dire à ses frères. Il dit, en fait, vos épreuves, là, ça devient tellement de montagnes que vous êtes tentés de mettre en oubli qui est Dieu, qui vous êtes vous-même. Et ainsi, vous redevenez le centre de vous-même et vous donnez de la force à vos convoitises, à cette convoitise, et ces convoitises conçoivent et elles enfantent. Et regardez ce que ça fait. Ça fait qu'en fait, vous devenez de plus en plus froid par rapport aux choses de Dieu. Vous devenez de plus en plus engourdi. Et quel est le remède? Quel est le remède? Et c'est ainsi qu'on termine. Ne vous y trompez pas, dit Jacques. C'est au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Vous voyez comment Jacques est un pasteur. Il a dit des choses qui sont dures, des choses qui sont très frappantes. Mais il parle à ses frères bien-aimés. C'est toute la beauté, là. Et si ce sont ses frères bien-aimés, c'est parce qu'ils sont bien-aimés du Seigneur. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont des intérêts communs ou des dispositions qui sont similaires. Non, ils sont bien-aimés du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le résultat? Ne vous y trompez pas. Et si vous avez la même version que moi, ou peut-être une autre version semblable, vous apercevez que ce verset 16, en fait, appartient à une autre section dans la lettre de Jacques. Et il y a pas mal de commentateurs qui pensent que, en quelque sorte, ça appartient aux versets qui suivent. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que ça appartient au verset, à la section que nous venons d'examiner. Ne vous y trompez pas, mes frères. Et personnellement, je pense que nous avons ici une autre articulation de notre maître de chantier. Jacques, ici, est en train d'utiliser cette phrase qu'il lit à ce qui vient de se dire et qu'il le lit à ce qu'il va dire maintenant. C'est notre maître de chantier. Pour ce qui nous concerne ici, Jacques est en train de dire « Arrêtez de vous prendre comme l'unique référence et centre de vie. » Ne regardez pas comme les épreuves qui vous atteignent, vous, et qui vous paralysent. Non, vous n'êtes pas la seule référence, vous n'êtes pas le centre de vie. Cela ne peut que vous tromper. Ne vous y trompez pas. Tout ce que vous ressentez, mes amis, n'est que ressenti. Des sentiments qui appartiennent, en fait, finalement, à votre nature tordue. Et il est très possible d'être sincèrement persuadé de quelque chose parce qu'on le ressent, et en fait, notre sentiment, ce que nous ressentons, est erroné. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Allez plutôt à la vérité. C'est ça qui ne trompe pas. C'est ça qui ne trompe pas. Allez en dehors de vous à la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il va faire maintenant. C'est pourquoi Jacques va recentrer de nouveau le regard de ses frères bien-aimés en les mettant en souvenir de la parole de vérité. Regardez au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Pourquoi? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Cette parole de vérité, elle n'engendre pas la mort comme le péché le fait, comme ces choses qui viennent de vous, mais elle engendre une nouvelle humanité. Et vous en êtes les prémices. Il leur parle de la parole que l'Esprit de Dieu a planté en vous. Regardez le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, il parle de tout cela pour des croyants, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, nous avons ici la parole de Dieu. Donc, il leur parle de la parole de Dieu et il faut qu'ils reviennent à la parole de Dieu. Et c'est en fait l'effet contraire que les épreuves faisaient sur eux. dans le sens que les épreuves occupaient tellement leur vision qu'ils en oubliaient que Dieu est un Dieu qui parle, que Dieu est un Dieu qui se révèle et qui leur montre qui il est, qui ils sont, qui est Jésus-Christ et quelle est la voie en avant. Et mes amis, la question se pose à chacun d'entre nous. Ces gens-là sont passés de la scène de la vie, mais nous, nous sommes ici. Comment est-ce que nous voyons nos épreuves? Comment est-ce que nous voyons notre vie ici-bas? Est-ce qu'elle est limitée par la vision de nous en tant que centre? Ou est-ce que nous venons et nous avons besoin de revenir à la parole de vérité? Cette parole de vérité qui forge en nous cette nouvelle humanité que Dieu a plantée en nous par son Saint-Esprit. Ce n'est pas que par notre compréhension nous devenons chrétiens. Non, en tant que chrétiens, comprenant la parole de vérité, nous sommes de plus en plus affermis. Voilà ce à quoi Jacques invite ses frères bien-aimés à regarder, à changer, à revenir vers le centre de toute chose. Et c'est son message pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne d'être puissamment encouragés à travers l'épreuve qui touchait nos frères de cette époque-là, pour nous-mêmes, de revenir à cette parole de vérité, la parole qui forge le croyant, qui le fixe sur l'image de Jésus-Christ, la vie de Christ qui s'exprime dans la personne, qui s'exprime dans la vie et qui permet d'être, même au milieu des épreuves, et souvent, souvent des épreuves terribles, et il y en a qui viennent dans notre monde, qui sont encore plus terribles, mais cela permet de marcher dans ce monde qui est étranger, hostile, comme une armée avec ses bannières déployées, en étant plus que vainqueur par Jésus-Christ, celui qui m'a aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun d'entre nous. Et merci pour votre attention.